le dernier paragraphe de cette deuxième paracha, c'est-à-dire de cette paracha qui parle du pasouk Vaharetz Haitato Vavou Mechoshech Alpetorom. La prochaine paracha, elle traitera du pasouk Vayomer Elohim Yehi Or. Alors, le dernier paragraphe, c'est le suivant. Il y a deux auteurs. Rabbi Abaou et Rabbi Araba. Rabbi Abaou et Rabbi le Grand. Rabbi Abaou Amar. Rabbi Abaou dit, Bitrilat Briato shel Olam, depuis le début de la création du monde, Safa Akadosh Baruch Hu Vemaasehem shel Tzadikim Uvemaasehem shel Reshaim. Depuis le début de la création du monde, Akadosh Baruch Hu a observé, il a vu les maasim, les actions des justes et celles des Reshaim, des méchants, des scélérats. Comme on le voit dans un pasouk de Tehilim, qui dit, Ki yodea Hashem, Akadosh Baruch Hu connaît derech tzadikim, Akadosh Baruch Hu connaît la voie des tzadikim et celle des Reshaim. Et Veharetz Haita Tohu Vavohu, Eilu Maasehem shel Reshaim. Et donc, pour vous montrer que c'est là depuis la création du monde. Je suis là, c'est moi là. Pourquoi je suis là? Bon. D'accord. Depuis la création du monde, alors, c'est dans le verset, Veharetz Haita Tohu Vavohu, Eilu Maasehem shel Reshaim. La terre était Tohu Vavohu. C'est une expression qui veut dire qui veut parler ici des actes des Reshaim. Et donc, quand Hachem va dire dans le verset suivant, le pasouk dit Vayomer Elohim Yehi Or, Elo Maasehem Shel Tzadikim. Ça, ce sont les actes des Tzadikim. Voilà. Donc, Akadosh Baruch Hu, dès le départ, il sait très bien qu'il y a des actes des Reshaim et des actes des Tzadikim. Et alors, maintenant, vient la chose étonnante dans ce paragraphe. Or, en fait, Aval, Eni Yodea, je ne sais pas, ces psukim qui nous disent qu'Hachem a, dès le départ, il a vu qu'il y avait des actes des Reshaim et des actes des Tzadikim, mais je ne sais pas, dit le Midrash, Eize Mehem Chafetz. Je ne sais pas quels actes Akadosh Baruch Hu préfère ou désire. Donc voilà, on comprend très bien la question, n'est-ce pas? Il y a des actes des Reshaim, des actes des Tzadikim, et on ne sait pas, peut-être qu'Hachem préfère les actes des Reshaim, peut-être qu'il préfère les actes des Tzadikim. On va essayer de comprendre ce que ça peut bien vouloir dire. Et quand le verset dit « Vayar Elohim et Haor Kitov », quand le verset dit qu'Akadosh Baruch Hu a regardé, il a vu la lumière et il a dit que la lumière était Tov, comme le verset qui parle de la lumière, c'est le verset qui parle des actions, des maasim, des tzadikim, alors je sais que Hachem préfère les maasim des tzadikim. Et il ne désire pas les maasim des Reshaim. Ça, c'est ce que a dit Rabbi Abaou. Mais ici, ils sont mis à deux dans ce paragraphe. La prière Abba, lui, il est comme ça. מתחילת בריאתו של עולם צפה הקדוש ברוך הוא בית המקדש דל דבו הקדוש ברוך הוא אהבו לה אובסרווה il a vu le Beth Amikdash banoui, il a vu le Beth Amikdash construit, il l'a vu kharev, il l'a vu détruit, et il l'a revu banoui, reconstruit. Où est-ce qu'on voit ça? Bereshit bara Elohim. Quand le verset dit Bereshit bara Elohim, are banoui. Là, pour lui, ça, c'est voir le verset, le Beth Amikdash construit. Comme c'est marqué, l'intoa shamaim velisod aretz, étendre les cieux, fonder la terre. Ve'aretz haetato uvavou, le verset, le deuxième verset qui dit la terre était au uvavou, ça veut dire qu'il a vu le Beth Amikdash détruit. Comme on voit dans le pasouk d'Irmia qu'on a vu déjà dans les paragraphe précédent, Haïti et Taharetz, Vineto Uvavo. J'ai vu, dit Yirmiya, le prophète qui dit, j'ai vu la terre, elle était Tovavo, elle était dans cet état de Tovavo, donc mauvais. Yomer Elohim Yehio, et ensuite il y a un troisième verset, où Elohim dit que la lumière soit, donc qu'il y ait de la lumière, Arebanoui. Ça c'est le Beth Amikdash construit. Où מי שכלל לעתיד לבוא, איך, מה דעת אמר, קומי אורי כיווה אורך. לבטואה מלוניאר, c'est le temps de ta lumière, c'est le temps où tu dois, en quelque sorte, illuminer, en quelque sorte. Et ensuite, le verset dit, c'est la suite, le verset c'est d'après, il dit qu'il est à Rocher Ichaseretz, car les ténèbres recouvrent la terre. Mais le verset continue, il dit, la gloire d'Hachem paraît. Elle paraît sur le plan d'Israël, bien sûr. Voilà ce paragraphe. Donc, on a deux lectures qui sont regroupées pour l'instant, on ne sait pas pourquoi elles sont regroupées, les deux lectures. Ce sont deux lectures du même verset, mais enfin, toutes les lectures qu'on avait dans cette partie-là traitaient de ce verset. Enfin, de ces versets, un peu. Donc ici, on traite les trois premiers versets, si vous voulez. Alors, la première partie, elle dit, voilà, Akadosh Baruch Hu, dès le départ, il voit qu'il vient y avoir des actions faites par les tzadikim, a priori des bonnes actions, et puis aussi des actions mauvaises faites par les rechaïm. Et là-dessus, sur ce qui est dit là, c'est appuyer chaque fois sur les versets. Sur le verset qui parle des massim des tzadikim, on va s'appuyer sur, bien sûr sur le verset Yehi Or, parle de la lumière, mais auparavant, on va s'appuyer le fait que Akadosh Baruch Hu sait très bien qu'il y a des voies qui sont les voies des tzadikim, d'autres qui sont celles des rechaïm. Et pour Rabbi Abaou, au départ, on voit pas très bien ce que sont les massim des tzadikim. Elles sont pas citées en premier. C'est pas le texte dit Akadosh Baruch Hu a vu. Il a vu qu'il y avait, dès le départ, des actions des tzadikim et celles des rechaïm. Et puis ensuite, on amène ce verset qui dit qui confirme qu'Hachem, le David HaMelech dit dans les Tehillim, il dit que HaKadosh Baruch Hu connaît effectivement les voix des Tzadikim et celles des Rechaim. Et puis on cite le verset Baaretz Hayta Tohu Vabohu, Elo Maasim Shel Rechaim. Mais on n'a pas apporté de verset parlant des Maasim des Tzadikim. Et on apporte seulement après, Yomer Elokim Yehior, Elo Maasim Shel Tzadikim. C'est-à-dire, dans la présentation, on dit d'abord celle des Tzadikim, après celle des Rechaim. Et dans les versets qu'on amène à l'appui, d'abord celle des Rechaim, après celle des Tzadikim. Mais vous voyez que pour Rabbi Abaou, on n'a pas utilisé le verbe Bereshit Bara Elokim, le verset. On commence tout de suite à Ares Aitato Vavou ou bien Irior. Alors que Rabbi Rabba, lui, il commence d'abord par Bereshit Bara Elokim, c'est ça qui correspond au premier Bet Hamikdash construit. Ensuite, Aretz Hayta Tohu Vavohu correspond au Bet Hamikdash détruit. Et ensuite, Yehior, effectivement, qui correspondra au troisième Bet Hamikdash. On verra, on parle pas du tout du deuxième. Le deuxième, il n'a pas vraiment un statut de Bet Hamikdash. J'en dirai quelques mots en passant. Mais la première chose qui nous choque, évidemment, c'est que Rabbi Abaou, il présente les choses comme si ça n'était pas décidé. Ça veut dire, je ne sais pas si Hachem préfère les Maasim des Tzadikim ou celles des Rechaim. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut imaginer donc qu'Hachem pourrait préférer les Maasim des Rechaim. Voilà, c'est Hachem, si on lui demandait son avis, lui préférerait les Maasim des Rechaim, peut-être. Non, alors, il va apporter un pasouk qui dit que non. On voit que, comme Hachem a dit qu'il a vu la lumière, que la lumière était bonne, c'est-à-dire qu'il a préféré la lumière. Or, la lumière, c'est le verset qui fait référence aux actes des tzadikim. Donc, je sais, parce que c'est écrit dans la Torah, que Hachem préfère les maasim des tzadikim à celles des rechaim. Mais il reste que, on voudrait bien comprendre. C'est quoi la Avamina? C'est quoi cette idée que peut-être HaKadosh Baruch Hu préférait les Maasim des Rechaim plutôt que celles des Tzadikim? Alors, on peut essayer de réfléchir de la manière suivante. Maasim des Tzadikim, voilà, c'est les gens qui font le bien, qui ont fait le bien, qui font le bien. Et, bon. En quoi est-ce que c'est en rapport avec Hachem, en quelque sorte? Faire le bien, alors, pour nous, c'est bien clair que le bien dont on parle ici, c'est faire les choses conformément à la volonté d'Hachem. Le bien est défini comme étant la volonté d'Hachem. Mais quand on fait le bien, bon, alors, ce qu'on voit, on voit le bien, et puis ensuite, il faut expliquer que, voilà, ce qu'on a fait, c'est la volonté d'Hachem. C'est-à-dire que, on pourrait imaginer que les gens, on voit très bien, il y a des gens très très bien, des gens qui font des bonnes choses, mais ça n'a rien à voir, ils n'ont pas l'intention de faire la volonté d'Hachem. Ils font un certain bien parce qu'ils pensent que c'est comme ça qu'il convient de se conduire, et donc ils font les choses bien, mais sans référence à Hachem. Quand on regarde une mitzvah, si vous prenez une mitzvah, les mitzvot, c'est en général des actes qui sont faits souvent avec des objets qui sont pas obligatoirement des objets précieux, pas obligatoirement des objets qui expriment des qualités, d'esthétique, etc., de beauté, etc. C'est souvent des objets qui, enfin, des objets qui sont fabriqués avec des petites choses, en fait. Parce que même si vous regardez ce qu'on a lu récemment dans la Torah, si vous regardez le Mishkan qui est, bon, c'est le tabernacle, c'est la résidence d'Hachem. Dans le tabernacle, qu'est-ce qu'on voit? C'est quoi? C'est du bois, des crochets, des peaux de bêtes, et éventuellement du tissé, sage, de lin, de laine, essentiellement. C'est pas des matières très très nobles. D'accord? On aurait pu attendre que, je sais pas, on aurait pu au moins prendre, je ne sais pas, s'il fallait prendre du cuir, mais bon, très travaillé, je veux dire, on aurait pu demander à, je sais pas, Hermès ou je sais pas qui, de produire effectivement de très belles choses. C'est pas, il y a de la couleur, mais c'est de la laine essentiellement, du lin ou des peaux de bête. Même si vous prenez une mitzvah comme c'est pas une mitzvah très importante, comme les tefillin. Tefillin, c'est une super mitzvah, une mitzvah ultra importante. Il y avait un temps où on devait porter les tefillin toute la journée. Aujourd'hui, on a réduit les choses. La plupart des gens ne portent pas les tefillin toute la journée. Mais bon, c'est quoi les tefillin? Les tefillin, c'est des petites boîtes noires. D'abord, c'est noir, c'est pas doré, c'est pas argenté, c'est pas coloré, c'est noir. Ok, je sais, mais c'est, bon, je sais pas si, est-ce que c'est un noir, est-ce que c'est du noir à la Soulage, etc., ou bien c'est un blanc, c'est du noir, c'est de l'encre noire. Et c'est de l'encre noire qu'on a mise, teinture noire, qu'on a mis sur quoi? Sur une peau de vache, ou une peau de bête, bélier. D'accord. C'est quoi? On a une bête qu'on a tuée ou qui est morte. Une bête que, effectivement, c'est une bête dont on aurait pu manger la chair. Il faut que ce soit mis la moutarde bifira. Mais c'est tout, mais c'est de la peau. Et bon, alors, on a travaillé cette peau jusqu'à en faire des petites boîtes. Et puis une autre partie de la peau est une peau sur laquelle on a écrit. On a tanné un peu cette peau. Et puis on a écrit. On a écrit des parchiotes. Un sefer Torah. Ouais. Imaginez la Torah. Aujourd'hui, si on avait dû fabriquer un sefer Torah, alors on aurait eu probablement une concurrence entre les propositions de, je sais même pas en quoi est-ce qu'on aurait pu imaginer de faire ce, mais bon, les tefillin, on aurait pu imaginer que ça se fasse un peu en diamant ou quelque chose comme ça, ou en or, ou en argent. Mais non, c'est de la peau de bête. Et le contenu aussi, c'est une peau de bête sur laquelle on a écrit. Et pourtant, c'est une mitzvah extraordinaire. On parle ici de la lumière. Ok. Dans le Beit HaMikdash, on va lire Shabbat, Baalotra, on parle des lumières. On parle de la menorah. Dans la menorah, ce qui est important, ce sont les flammes. Mais ces flammes, elles sont placées, elles sont pas obligatoirement, bon, bien sûr, la menorah, elle est en or, mais les nérotes, c'est en général, c'est quoi? C'est de la terre, en général, c'est comme ça. C'est un petit récipient d'argile ou je sais pas, dans lequel il y a de l'huile et une mèche en coton, une mèche en. Le support est aussi quelque chose de très élémentaire, quoi. C'est pas très sophistiqué, quoi. On n'a pas On n'a pas demandé que, par exemple, qu'on va allumer, nous, les nérodes de Hanouka, on ne nous demande pas du tout que les récipients dans lesquels on va mettre l'huile et la mèche, il n'y a pas d'exigence quant à la qualité de ce récipient. Un mitzvah de nérod de Hanouka, Parce que l'essentiel, c'est la flamme qui va monter. Donc, ce dont on parle dans Aaron, ici, dans le traduit, c'est qu'il faut faire monter la flamme. Donc, c'est ça le problème. Donc, les mitzvot des tzadikim, c'est-à-dire les maasim des tzadikim, c'est, par excellence, ce sont des mitzvot. Ça les... Qu'est-ce qui leur donne une valeur tout à fait particulière, c'est quand, lorsqu'on fait une mitzvah, et que cette mitzvah, elle apparaît comme la prolongation du texte de la Torah. Si vous ne laissez pas, on peut très bien avoir un résumé qui nous dise exactement comment on doit faire pour faire telle et telle mitzvah. Aujourd'hui, ça se fait beaucoup, on publie des petits livres qui vous disent, voilà, avec des photos et tout ce que vous voulez, mais qui, voilà, c'est la technique, voilà. Mais ce qui va être important pour que ça soit vraiment une mitzvah, c'est que ça soit la prolongation du texte de la Torah, que ça soit la parole d'Hachem, si on peut parler comme ça, c'est ça la Torah, d'accord? Que ce soit la parole d'Hachem qui, quelque part, s'actualise, si on peut parler comme ça, se concrétise en, pour la plupart d'entre nous, quand on fait les mitzvot, on fait les gestes qu'on doit faire. Mais on n'est pas en train de présenter ces gestes comme l'aboutissement, en quelque sorte, d'une étude de la parole divine. Et de ce fait, quand les gens ont fait les mitzvot, ben ils sont des tzadikim. Même s'ils n'ont pas du tout présenté, il n'y a pas de recherche tellement pas obligatoirement de recherche dans ce qui est fait. On dira, comme Rambam dit, que si quelqu'un il a plus de mitzvot que d'averot, la mitzvah c'est quoi? Quand on peut dire, voilà, j'ai fait la mitzvah. C'est yotze, j'étais yotze, c'est bon. J'ai fait la mitzvah comme il fallait. Maintenant, si on regarde les maasim des reshaim, bon, eux, ils font ce qu'ils veulent. Bon, ils font ce qu'ils ont envie de faire. Mais comment est-ce que ça peut être considéré comme quelque chose qu'Hachem va peut-être préférer? Alors, évidemment, les maasim des reshaim, il faut les voir dans la totalité du maasé, c'est-à-dire il faut voir que parce que le rachat s'est mal conduit, il va être sanctionné. Et cette sanction-là, c'est une manifestation d'Hachem. D'accord? Ça veut dire que peut-être qu'Akadosh Baruch Hu préfère les maasim des reshaim, parce que quand on regarde les maasim des reshaim, ça va donner la possibilité, si on peut parler comme ça, Hachem, d'apparaître clairement comme agissant dans le monde. Comme le but de l'exercice, c'est qu'Hachem soit reconnu dans le monde, alors peut-être pourrait-on penser que Hachem est plus reconnu dans le monde quand il sanctionne, on voit bien que c'est lui qui sanctionne, que quand les gens font les choses, et on voit pas très bien le fait qu'ils font les choses parce qu'Hachem les a dites. Quand le Midrash nous dit que Avraham Avinu, quand il recevait, sa maison était toujours pleine, et il recevait, bon, et quand les gens voulaient le remercier, parce que c'est des gens, la maison d'Avraham Avinu, elle était sur la route de Sdom. Il n'était pas à Sdom, mais sur la route. Donc la qualité des gens qu'ils pouvaient entrer chez Avraham Avinu, vous pouvez vous imaginer, c'est des gens en tout cas qui commerçaient, tous les sens du mot, avec les gens de Sdom. C'était peut-être pas, il n'est pas à Sdom, C'est Lot qui a voulu aller faire mieux, et lui, il a pensé qu'il pouvait aller à Sdom. Mais Abraham, il n'est pas allé à Sdom, mais par contre, il a, dans sa maison, il y a toutes sortes de gens qui sont en chemin, éventuellement en chemin pour aller ou pour venir de Sdom. Donc, des gens peu recommandables. Mais bon, ces gens-là, quand ils ont été très bien reçus, malgré tout, ils expriment leur reconnaissance, ils vont dire merci. Et à ce moment-là, Abraham dit, c'est pas moi qu'il faut remercier, il faut remercier Hachem. D'accord. Ça veut dire que c'est pas clair que c'est pas tout de suite clair que ce qu'Abraham Avinu a fait, c'était parce qu'Hachem le lui a dit. Parce qu'il voulait obéir à Hachem, ou voulait aller dans le sens de ce qu'Hachem voulait. Il faut qu'il le dise à la fin, et s'il le dit pas, ben on verra rien. Pourtant, ce sera un massif tobim. Ce sera des bonnes actions. Mais on voit rien. Tandis que, Akadosh Baruch Hu, ne pouvant pas laisser les actes des Rechaïm sans réponse de sa part, puisque dans les vrais actes des Rechaïm, c'est en fait une révolte contre Hachem. C'est un mépris de la loi divine, etc. Donc, Akadosh Baruch Hu est quasiment obligé de réagir. Alors peut-être qu'il préfère les maasim des Rechaïm, parce que comme ça, ça va lui permettre de se manifester dans le monde plus qu'il ne se manifeste grâce aux actions des tzadikim, parce que les tzadikim, ils font des bonnes actions, mais c'est pas toujours avec un drapeau qui dit, voilà, ce que je le fais parce que Hachem me l'a demandé. On fait souvent des choses qui existent aussi chez les autres, qui eux ne font pas ces mêmes choses parce qu'Hachem les a ordonnées. Finalement, si vous avez des gens qui, bon, tous les gens qui ont aidé les Juifs pendant la guerre, etc., en risquant leur peau, etc., c'est des maasim tovim. Il n'y a pas de doute que ce sont des maasim tovim. Mais ils ne l'ont pas fait pour Hachem. Ils l'ont fait pour leur conscience, ils l'ont fait pour parce qu'ils trouvaient injuste, etc. Peu importe. Alors, l'hospitalité, si vous voulez, on sait bien, on voit dans la Torah d'ailleurs, que l'hospitalité, c'est quelque chose qui est très important, mais qui est très partagé. Parce que dans le désert, il y a une hospitalité. Et c'est pour ça d'ailleurs que les gens de Moab ont été exclus du clan Israël, même ils ne peuvent pas se convertir et entrer dans le clan Israël, parce qu'ils n'avaient pas justement cette qualité d'hospitalité. Et ce qui est, si vous voulez, le béaba dans le désert. C'est le béaba dans le désert. Il fait que, même quand Abraham Avinu, il fait entrer les fameux trois voyageurs chez lui, encore, bon, il se trouve qu'eux, ils avaient besoin de rien, mais c'est une hospitalité de, quasiment de, je sais pas si, il est Eloné Mamré, je ne sais pas exactement, est-ce que c'est désertique encore, c'est des chênaies, est-ce que c'est déjà une oasis, ou je ne sais pas ce que c'est exactement. Mais bon, c'est de l'hospitalité. Bon, mais l'hospitalité, c'est pas quelque chose qui n'existe que dans la Torah. Et donc, voilà, c'est des tzadikim. Les gens qui font ça, c'est très bien. Et on ne peut pas dire le contraire. Et même si c'est les Bnei Israël qui le font dans le cadre de leur mitzvot, mais peut-être que ils font les gestes de l'hospitalité, etc., comme les autres. Et on ne voit pas que ce soit nourri, si vous voulez, de Torah. On ne voit pas Hachem apparaître là-dedans. Donc on peut bien comprendre que peut-être que quand je vous préfère effectivement les maasim, les rechaim, donc j'essaie seulement de comprendre comment on peut envisager qu'Hachem préfère éventuellement les maasim des Rechaïm. Et la réponse de l'Agmara, la réponse du Midrash, c'est, à cette interrogation, c'est non. Et Hachem préfère les maasim des Tzadikim. D'où est-ce qu'on voit ça? C'est que quand Rabbi Abaou a amené les maasim des Tzadikim, il a apporté un pasouk. Yomer Elohim yehi or. Elu maasim shel tzadikim. C'est-à-dire, yehi or, donc La lumière, le verset qui dit qu'il y ait de la lumière, c'est les ma'asim des tzadikim. Donc la référence lumière, elle est mise en rapport avec les tzadikim. Or, le pasouk qui va nous permettre de savoir ce qu'Hachem préfère, c'est un pasouk dans lequel Hachem dit, enfin le pasouk nous dit, que Akadosh Baruch Hu vayar Elohim et ha'or ki tov. Il a vu la lumière, donc les ma'asim des tzadikim, et il a dit, c'est tov, c'est bien. Donc, c'est ça que je préfère. Le tov, c'est ce qui est bien. Ouais, donc, on a un verset. Voilà, la Torah, elle nous aura dit d'emblée que la question des ma'asim tovim ou pas, ma'asim des tzadikim ou des rechaim, c'était une question qui est là dès le début, dès la création. Et Rabbi Abba vous dit, je sais pas effectivement. J'ai besoin que la Torah me dise clairement qu'Hachem préfère qu'on fasse les ma'asim des tzadikim plutôt que les ma'asim des rechaim, même si après les ma'asim de Rechaim, la sanction, elle sera une manifestation de la puissance divine. Bon, ça c'est une première chose. Maintenant, les ma'asim de Rechaim, elles sont représentées dans le texte par Vahare Saita Tohu Vavu. La terre était justement cet état de Tohu Vavu dont on a parlé les dernières séances. Ça, c'est les ma'asim de Rechaim. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que de dire que la terre est Tohu Vavu, c'est l'expression des ma'asim de Rechaim, des actions de Rechaim? Les Rechaim agissent, et la terre, elle est complètement, elle ne sait plus où elle en est. Elle est complètement bouleversée. Les ma'asim des Rechaim, en quelque sorte, mettent la terre dans un état de chaos. Tohu Vavu, c'est le chaos. D'accord? C'est donc, ça veut dire que, qu'est-ce que c'est la caractéristique des ma'asim des Rechaim? C'est que ça ne construit rien. Ça ne construit pas. Ça fabrique du chaos. C'est les ma'asim des ma'asim de Rechaim. Il y a, dans la halakha, on parle par exemple de gens qui vivent du jeu. Des joueurs professionnels qui gagnent leur vie en jouant. Et ces gens-là, on dit, ces gens-là sont pas sous les doutes. On ne peut pas les accepter comme témoins. On ne peut pas les prendre à témoin dans un contrat ou etc. On a besoin de témoins, bien dans un mariage, on ne peut pas les prendre. Ce n'est pas quelqu'un qui a joué une fois, c'est quelqu'un qui vit de cela. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Enomina Yishuv. C'est-à-dire qu'ils ne construisent pas le monde. Ça ne construit rien du tout, ce jeu. D'accord. Et c'est ça. On ne peut pas demander à des gens de témoigner, c'est-à-dire de donner du poids, de dire comment sont les choses, sur des gens qui ne sont pas occupés du tout à construire le monde. Donc, ici on voit, l'extrême, les Rechaim, c'est des gens qui non seulement ne construisent pas le monde, mais qui détruisent le monde, ils mettent le monde dans un état de chaos. Alors, quand on met le monde dans un état de chaos, de Rechaim, alors quelque part, ça entraîne quasiment, normalement, ça devrait entraîner à la destruction du monde. Sauf que Akadosh Baruch Hu a promis qu'il a fait un serment qu'il n'allait plus détruire le monde, il n'aura plus de Maboul, donc il n'envoie plus de Maboul. Donc le monde, les Rechaim sont là dans le monde et ils fabriquent du chaos, ils empêchent le monde de se construire en fait. Sont même à l'œuvre pour détruire. Et donc, alors je pourrais préférer leurs actions, comme on a vu, au titre que ça va l'obliger à intervenir, et donc il va montrer qu'il est le maître. Donc, ils obligent Hachem à intervenir, en quelque sorte, par leur conduite, par leur capacité de détruire, etc., d'empêcher la construction. Ils vont obliger à Kadosh Baruch Hu d'intervenir. Donc, à Kadosh Baruch Hu pourrait préférer ce genre de conduite, parce que finalement, l'important, c'est que Hachem soit reconnu dans le monde, il va être reconnu. On va apprendre qu'on ne peut pas faire le contraire de la volonté d'Hachem. Une sanction, donc, Hachem apparaît comme le maître du monde ici. Dans les actions des tzadikim, Akadosh Baruch Hu n'apparaît pas aussi violemment comme le maître du monde. On voit qu'il y a des gens qui obéissent à la loi d'Hachem. Disons que c'est des tzadikim, des gens qui font ce qu'Hachem veut que nous fassions. Mais, encore une fois, ça ne se voit pas obligatoirement. On est en train de faire les choses parce qu'Hachem les a demandées. Par conséquent, il va falloir ajouter quelque chose pour qu'Hachem trouve que c'est bien, ces actions c'est bien ce que font les tzadikim. Alors, ce qui est remarquable chez Rabbi Abaou, dans sa présentation, c'est que les maasim des tzadikim, pour lui, c'est Yehi Or. Quand Hachem dit qu'il y ait de la lumière, ça veut dire, je veux les maasim des tzadikim. Pour moi, pour Hachem dit, d'après ça, d'après Rabbi Abaou, les maasim des tzadikim sont une lumière du monde. Ils sont la vraie lumière. Donc c'est ça qui illumine le monde. Et si le or, d'une certaine manière, est cette fameuse lumière, le vaillé or, vous savez bien que cette lumière, qui est la lumière originelle, elle a été mise de côté par Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu ne voulait pas que les Rechaim puissent profiter de cette lumière. Alors il l'a mise de côté, il nous a donné la lumière du soleil, si vous voulez, à terme. Cette lumière-là, qu'est-ce qu'il en a fait? Alors, nos maîtres disent que cette lumière-là, elle est dans les pages, disons, dans les pages, dans les lignes de la Torah Shebaal Peh. C'est-à-dire la Torah Shebaal Peh qui a été mise par écrit dans la Gemara, si vous voulez, dans la Gemara, dans le Midrash, dans tout ce qui est Torah Shebaal Peh, il y a là cette fameuse lumière. Et cette lumière, d'après Rabbi Abaou, c'est justement ce que font les tzadikim. Alors, il faut comprendre. Justement, ça viendrait dire ici que ce qu'on appelle tzadikim, c'est très exigeant. C'est-à-dire que, au fond, les tzadikim, c'est pas simplement les gens qui font les mitzvot. Ce sont les gens qui font les mitzvot, si vous voulez, comme ce que je disais auparavant, comme quelque chose qui est l'actualisation, la concrétisation des divrei Torah, des paroles de la Torah orale. Bon, dire que la lumière, c'est-à-dire les maasim des tzadikim, sont dans la Gemara, ça veut dire elles sont la prolongation, elles sont l'expression de la Torah chez Baal Peh. Ce n'est qu'à ces conditions-là on peut dire que ce sont des maasim des tzadikim. Sinon, ce n'est pas encore des maasim des tzadikim. Alors, j'ai un petit problème, je ne sais pas très bien comment résoudre ce problème, c'est que si on dit comme je le dis, les maasim des gens qui font bien, mais qui sont pas, qui mettent pas ça en rapport avec la Torah en quelque sorte, les mitzvot n'ont quelque part pas, elles sont pas vivifiés par la Torah orale, ces gens-là, ils ne sont pas des Roshaïm, ils ne sont pas des Tzadikim non plus, donc il y aurait tout un espace dans lequel il y a beaucoup de chances que je sois aussi, d'accord, de gens qui sont peut-être Benonim, c'est des moyens, des gens qui sont ni Tzadikim, ni Roshaïm, donc de ceux-là, c'est comme si bon, Hachem ne s'est pas occupé d'eux. Quelque part, on ne peut rien dire de je sais, une espèce de... Ils sont en devenir. On a l'impression que c'est des gens qui, un jour ou l'autre, vont basculer ou du côté des Rechaïm ou du côté des Tzadikim. Ou bien ils vont prendre conscience qu'ils vont devenir des Tzadikim. Ou alors, ils vont se dire, mais finalement, ce que je fais, ça n'a pas de vie, etc. Il y a beaucoup de spiritualité, comme on dit, etc., là-dedans. Et puis, ils vont passer... Ou bien ils vont mettre de la spiritualité et ils vont passer du bon côté ou ils vont passer du mauvais côté.
Mais est-ce qu'on peut pas dire que ces gens-là en question, donc ce sont des gens, on va dire ça simplement, qui font des choses bien. Et en fait, est-ce que tout n'est pas la construction aussi de Ben Adam les Ravero, à savoir que justement faire les choses bien permet, j'aime pas cette expression,
pas clair,
de vivre ensemble.
Thierry, faire les choses bien, ça n'a pas de sens. Le bien, si vous voulez, c'est le ratson Hachem, c'est la volonté d'Hachem. Donc tout faire fait. Les choses bien, ça veut dire les faire parce que c'est la volonté d'Hachem. Et donc du coup, c'est comment on peut faire parce que c'est la volonté d'Hachem? C'est seulement si ce qu'on fait apparaît comme la volonté d'Hachem. Et la volonté d'Hachem, c'est ce que Hachem nous a enseigné, c'est ce qu'Hachem nous a enseigné qui est dans la Torah orale, c'est ce que nos maîtres nous ont enseigné. Donc, d'accord. On ne peut pas dire que ces gens-là font les choses bien. Ils ne font pas les choses bien. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas ça le bien.
Le Derech Eretz, sauf erreur.
Non, ça c'est pas Derech Eretz. Ne mélangez pas tout. On n'a pas parlé pour l'instant du tout de Derech Eretz. On parle simplement pour l'instant des Maasim des Tzadikim. Alors, j'essaye de montrer que chez Rabbi Abaou, ces Maasim des Tzadikim sont comparés à la lumière et pas à n'importe quelle lumière. À la lumière du Yehi Or, c'est-à-dire cette lumière qu'Hachem a retirée du monde et qu'il a mise dans les pages, dans les lignes de, pour nous, puisque la Torah orale a été écrite, on a dû la mettre par écrit. Donc, c'est dans la Torah orale. Et si ça n'apparaît pas comme prolongation de la Torah orale, d'une certaine manière, je comprends bien de ce que dit le Midrash ici, eh bien, ce n'est pas les Maasim de Tzadikim. Les Maasim de Tzadikim ne peuvent pas être décrites par Yehi Or si ça n'a pas vraiment à voir avec la lumière. Non, c'est pas n'importe quoi, on n'a pas balancé un verset pour faire bien. Yehi Or, c'est Rabbi Abaou, quand il dit ça, il pèse ses mots. Les Chachamim, quand ils parlent pas pour remplir les pages. Il a pesé ses mots, il a dit c'est les Tzadikim, et je retrouve ça dans le mot Yehi Or, dans l'expression Yehi Or, et je vous explique de quelle lumière il s'agit. Il s'agit même pas de la lumière, ce serait déjà pas mal si c'est la lumière, mais c'est pas la lumière, c'est la lumière de qui aura à la fin des temps, mais qui est déjà dans la Torah, essentiellement dans la Torah orale. Dans le produit des actions des hommes qui ont construit, qui travaillent pour élaborer justement, pour bien comprendre ce qu'Hachem veut de nous et qui comprennent que voilà, une fois qu'on a bien compris ce qu'Hachem veut de nous, on comprend comment il faut faire cette mitzvah comme prolongation justement de la Torah orale.
Oui, est-ce qu'on peut faire une mitzvah sans savoir qu'on est en train de faire une mitzvah?
Non, on aura fait. C'est ce que je vous ai expliqué au début.
Non, mais pourtant.
Il y a le maase mitzvah, écoutez bien. Il y a le maase mitzvah. C'est-à-dire, voilà, il faut allumer des nérotes. Ok, on allume des nérotes. Voilà, c'est tout. Si on vous demande, vous avez fait la mitzvah? Oui, j'ai.
Comme s'il avait fait la mitzvah de Tzedaka.
Ça, c'est pas vraiment à quoi ça correspond. Ça, je sais pas quoi vous répondre. Je vois pas très bien en quoi il y a quoi que ce. Bon, c'est. Il a été celui par lequel Akash-Bohu a donné aux pauvres ce dont il avait besoin. Mais bon, dire qu'il a fait une mitzvah, je n'irai pas jusque-là. Bon, alors, pour revenir à ce qu'on disait, donc, si vous voulez, si effectivement les ma'asim des tzadikim sont de la lumière, bon, alors on comprend que Hachem puisse choisir. Bon, finalement, je préfère parce que ça, c'est une expression de la puissance divine, si vous voulez, dans le monde. Alors, il y a donc deux façons d'en parler. Il y a, d'une part, l'intervention d'Akadosh Baruch Hu lui-même qui sanctionne, et puis il y a une intervention que, d'après Rabbi Abaou, est plus importante, en quelque sorte, et est préférable, c'est quand Hachem intervient, non pas en sanctionnant, non pas directement, mais par le biais de la Torah. Parce que, en nous ayant donné sa Torah, et parce que nous, aujourd'hui, enfin, que nous faisons, nous avons développé la Torah, et nous faisons les gestes de la Torah qu'il voulait que nous fassions, mais son intervention d'Hachem, elle n'est pas obligatoirement visible, si vous voulez, mais ce sont les hommes qui n'arrêtent pas de la mettre en avant, puisqu'ils montrent, voilà, c'est conformément à la Torah, or ce que nous connaissons d'Hachem, c'est la Torah qui nous a donné, on ne connaît rien d'autre. Donc, si vous voulez, je vous préfère, d'après ce midrash-là, préfère son intervention à travers la Torah développée par les hommes, inspirée par Hachem, bien sûr, mais développée par les hommes, que les hommes soient inspirés quand ils produisent de la Torah par Hachem. C'est un peu ce qu'on a dans le fameux midrash, là, qui dit que quand Moshe Rabbeinu est monté au ciel, et qu'il a raconté au Shiur de Chumash, il a vu que Akadosh Baruch Hu était en train d'attacher les petites couronnes sur certaines lettres de la Torah. Et Moshe Rabbeinu a dit à Hachem, mais tu pourrais nous donner la Torah telle qu'elle. On n'a pas besoin de ces petites couronnes. Et Hachem a répondu, il va venir un jour un homme qui est Akiva ben Yosef, c'est Rabbi Akiva, et lui va donner, il va être d'Oresh, Tilim, des montagnes à la fois, à partir de ces petites couronnes-là. Donc, si vous voulez, c'est comme ça, c'est ça qu'Hachem voulait faire. Il a voulu que, en plus de la Torah, il nous a donné une Torah avec des points de repère, des aides pour qu'on sache comment développer, comment se débrouiller. Moshe Rabbeinu n'avait pas besoin de tout ça parce que pour lui tout était clair. Mais personne n'est Moshe Rabbeinu. Et on n'a même plus aujourd'hui la ressource de demander à Moshe Rabbeinu. Il n'y a plus personne qui peut demander directement à Hachem. On a pu le faire pendant 40 ans dans le désert, mais dès le moment où on est entré en Eretz Israël, c'était terminé. Après la mort de Moshe, plus personne ne peut faire cela. Et donc, la Torah, elle a été donnée. Elle n'est plus à Shamaïm, elle n'est plus en haut. Il nous l'a donnée. Et il nous l'a donnée avec ces petites couronnes qui vont permettre à Rabbi Akiva de développer la Torah. Nous vivons sur ce développement par Rabbi Akiva de la Torah. Tout ce que nous avons, c'est pas toutes les Mishnayot, etc., tout ça, c'est une Stam Mishnah, par exemple, c'est Rabbi Meir, Alibé de Rabbi Akiva. Ce sont les élèves de Rabbi Akiva qui nous l'ont donné. Donc c'est l'enseignement de Rabbi Akiva. C'est lui qui a quasiment donné la Torah chez la Torah orale. Bien sûr, tout le monde a contribué par la suite et on continue encore aujourd'hui à contribuer. Mais le cœur de tout ça, c'est l'enseignement de Rabbi Akiva. C'est donc l'enseignement qui est attaché à ces petites couronnes là, au coup de pouce qu'Hachem donnait. Et c'est pour ça qu'Hachem préfère effectivement les mitzvot qui sont donc les actes des tzadikim. Mais par acte des tzadikim, c'est les actes des tzadikim, si vous voulez, qui sont vivifiés parce qu'ils sont branchés sur la Torah orale. Voilà ce que je pense de ce que dit Rabbi Abaou. Une réflexion plutôt qu'une réponse. Tout le monde le dit, et le Rostreim l'a dit encore souvent, dit que si on n'étudie pas, disons, le Mishnah Bora sur Shabbat, c'est impossible de faire Shabbat sans fauter. Donc, si vous voulez, ce serait ça. D'accord, ça veut dire, comme pour savoir que, ben voilà, j'ai étudié le sujet. J'ai étudié le sujet, et du mieux que je pouvais, je vois que c'est comme ça qu'il faut faire. Alors, tant que j'ai pas encore étudié, je suis en train de commencer, je suis obligé de me rabattre sur des petits livres qui vont me dire on fait ça comme ça et ça comme ça et comme ça, mais ça, bon, c'est bien pour limiter les dégâts en quelque sorte. Mais ça s'appelle pas étudier la Torah. On n'a pas étudié Shabbat avec ça. On nous a dit comment faire. J'ai la recette du Shabbat. Et c'est comme si moi je faisais la cuisine en lisant un bouquin de recettes de cuisine, mais je ne deviens pas cuisinier pour autant. Bon, je ne sais pas le faire. Je ne sais pas pourquoi on fait ça et pourquoi on fait ça, pourquoi il faut chauffer à temps et là il faut battre pendant 15 jours. Je ne sais pas. Alors ça c'est Rabbi Abaou. Mais en même temps que Rabbi Abaou, il a fait équipe en quelque sorte ici, visiblement, avec ce Rabba. Et lui, les mêmes psukim avec lesquels Rabbi Abaou a développé là, ce que j'ai essayé de vous présenter, lui, il dit que quand Akadosh Baruch Hu a vu depuis le début, ce qu'il a vu, c'est les Bate Mikdash. C'est-à-dire le premier Bate Mikdash, et puis la destruction de ce premier Bate Mikdash, et je vous ai dit, il faut sauter le deuxième, parce que dans le deuxième, il n'y avait jamais, durant le deuxième Bate Mikdash, il y avait cinq choses qui manquaient par rapport au premier. Le vrai deuxième Bate Mikdash, c'est le troisième. C'est ce qu'on appelle le troisième. Mais c'est ça. Dans le texte, on voit très bien qu'il n'y en a que vraiment deux, quoi. C'est-à-dire le premier qui a été détruit et celui qui sera construit à la fin des temps. Donc lui, il dit que Akadosh Baruch Hu a vu le Bate Mikdash construit, détruit et construit. Bon. Et il fait ça, il appuie cette présentation des choses en disant que le premier Bet HaMikdash, pour lui, le Bet HaMikdash construit, donc le premier Bet HaMikdash, c'est basé sur le pasouk qui dit Bereshit Bara Elohim, Arebanoui. Il est banoui, il est créé, il est construit. Pourquoi? Parce que on s'appuie sur le verset bien connu du Navi, qu'on a vu plusieurs fois cité, l'Into Hashamayim Velisod Haaretz, Akadosh Baruch Hu, il étend les cieux et il fonde la terre, et puis on dit, bon, voilà. Donc c'est ça, étendre les cieux, fonder la terre, etc. C'est ça, construire, c'est le verset avec lequel, pour après Araba, Akadosh Baruch Hu a vu, exprime qu'Hachem a vu le premier Bet HaMikdash construit. Et d'après ça, on a l'impression que c'est quoi le premier Bet HaMikdash? Ben c'est le monde. Bon, c'est Bereshit Bara Elohim Hashamayim et Haaretz. Le premier Bet HaMikdash, d'après ça, c'est le monde. Et puis le monde a été détruit. Le Bet HaMikdash a été détruit. Et c'est comment il est détruit? Parce que c'est marqué, arrête ça, t'as tout babo ou arrête rarev. C'est marqué dans le Navi, qui est le Navi de la destruction, de l'époque de la destruction du premier Bet HaMikdash, Yirmiya, bon, Jérémie, qui lui dit, j'ai vu Raïti et Taharès, Veine, tout babo. J'ai regardé la terre, et voilà, elle était dans l'état tout babo. Et donc ça veut dire que le Bet HaMikdash a été détruit, c'est vrai, mais si le Bet HaMikdash était le monde, d'une certaine manière, on s'en est pas rendu compte, peut-être, mais quand le premier Bet HaMikdash a été détruit, c'est la destruction du monde. Le monde a été détruit. C'est-à-dire, le monde ne sera plus jamais ce qu'il était au départ. il a été, si on peut parler comme ça, définitivement détruit. Alors, on a l'impression, voilà, c'est le, arrête, avec ça, tout va beau, c'est fini, terminé. Mais, pour nous dire les choses, curieusement, ce monde qui a été détruit, finalement, quand je vous l'ai vu reconstruit, le Beit HaMikdash, il y aura une nouvelle reconstruction du monde, qui elle est basée sur le Passouk, Yomer Elokim Yehi Or. C'est-à-dire, une intervention d'Hachem dans le monde qui va envoyer de la lumière. Hachem va envoyer de la lumière, Rebanoui. Donc là, ici, j'entends que le monde est créé, ou si vous préférez, recréé. Grâce à la lumière, enfin, où c'est l'expression de la lumière, il est, bien entendu, ça fait référence à l'Atid Lavo, de référence au Michel à l'Atid Lavo. Bon, c'est puisque en fait c'est une reconstruction qui n'aura lieu que l'Atid Lavo, c'est-à-dire effectivement l'Atid Lavo, c'est un autre monde, c'est-à-dire en fait il n'y aura de reconstruction du Beit HaMikdash que dans un autre monde. Ou plus, si vous préférez, reconstruire le Beit HaMikdash, c'est créer un autre monde. Et c'est bien ce qu'on voit un peu tout le temps, c'est que l'Atid Lavo, il y aura Akadosh Baruch Hu, Vaya, Hashem sera Echad, son nom sera Echad, c'est un autre monde. Alors c'est un monde d'un Echad, si vous voulez, qui est un vrai Echad dont nous n'avons absolument aucune idée. Parce que d'une certaine manière, notre monde, qui est un monde du deux, quand on réfléchit, quand on essaye de penser à un monde du un, à partir du monde du deux dans lequel nous sommes, c'est désastreux. Ça débouche sur la dictature, ça débouche sur la destruction, sur la mégalo, tout ce que vous voulez. Bon, ça veut dire que le 1, tel que nous pouvons le penser, c'est la mort. Le 1, qui est notre émouna, c'est seulement la fille de la veau, là, c'est quelque chose de complètement différent. C'est un autre monde. Ce 1-là, nous n'en avons aucune idée, nous ne pouvons pas nous le représenter. Il ne faut donc pas essayer de se représenter parce que toute représentation de ce 1 serait une façon de dégrader ce 1. On fait comme si on savait ce que c'était le 1. On ne sait pas. Nous, on ne connaît pas ce 1-là. C'est 1 absolu, en fait. Un qui n'a pas de 2, un qui n'est pas décomposable, etc. Il n'y a aucun. Ça n'existe pas. Dans notre monde, il n'existe pas. De un de ce type-là. Et ça, c'est la construction du troisième Beit HaMikdash, enfin du Beit HaMikdash du futur. Et à cette époque-là, dans le futur, le pasouk qu'il a utilisé pour dire justement que il y aura cette lumière. À la fin, cette lumière, elle correspond, le Yihor correspond au troisième, enfin, il peut au troisième, mais en fait, c'est le vrai deuxième Beit HaMikdash, Beit HaMikdash du Atid Lavo. Le Midrash s'appuie, enfin, ce Rabbi Ria Rabba, il s'appuie sur un pasouk du Navi Yeshaya, qui dit, Kumi Ori, qui va Orech. C'est-à-dire, lève-toi ma lumière, c'est le moment de d'illuminer, en fait. C'est ton moment, viens, illumine. Lève-toi, ma lumière. Mais la suite du verset, ou plus exactement, en fait, c'est le deuxième verset qui vient juste après. Le deuxième verset, il dit, qu'il est à Rocher, il rassert, les ténèbres vont couvrir le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? On est dans la lumière ou on est dans les ténèbres? Et la fin du verset, c'est le verset qui dit à la fois que les ténèbres vont recouvrir la terre, mais ça termine, ils ont traduit par « sa gloire sur toi paraît ». C'est-à-dire effectivement, sur le clan d'Israël, il y aura la gloire d'Hachem va apparaître à ce moment-là, et quand on dit que les ténèbres vont couvrir la terre, c'est-à-dire les gens vont se rendre compte que hors de la lumière divine, on est complètement, par rapport à cette lumière, on est en ténèbres complètes. Même si on croyait qu'on y voyait clair, quelque part, en réalité, on se rend compte qu'effectivement, les ténèbres ont couvert la terre, c'est-à-dire le monde entier est couvert de ténèbres. La lumière d'Hachem, elle lui va sur le clan d'Israël, qui à ce moment-là, justement, va bénéficier du travail qu'il a fait, et il y aura cette construction du troisième, du Beth Amikdash du futur. Et donc, on peut se demander pourquoi les deux textes sont mis ensemble, en fait. D'accord? Ça veut dire que, visiblement, on veut faire une espèce de correspondance, parce que sinon, pourquoi on les met ensemble? Alors, je vous ai fait remarquer en passant au début que pour Rabbi Abaou, il n'a pas utilisé du tout le Bereshit Bara Elohim, le premier verset, il n'a pas utilisé. Lui, il a utilisé le Yihor pour décrire les Maasim des Tzadikim. Il a utilisé Vaaretz Hayta Tohu Vabohu pour décrire les Maasim des Rechaim. Et pour décider qu'est-ce qu'Hachem préfère, il a pris un quatrième verset, un autre verset, où Elohim dit, Elohim a regardé les choses, et il a vu Taor Kitov, que la lumière, c'était bon. Donc, lui, Rabbi Abaou, il s'est quasiment décalé. Il a pris le deuxième pasouk, le troisième pasouk, et un pasouk encore, qui est peut-être le quatrième, je suis pas sûr. Je vais pas vérifier, mais enfin, un pasouk plus loin. Alors que, Rabria Rabba, lui, il a pris le premier pasouk pour le Beth Amikdash construit, le deuxième pasouk, Aretz Hayta Tohu Vabohu, pour le Beth Amikdash détruit, et puis ensuite, le Yehi-Or pour parler du Beth Amikdash reconstruit. Donc, lui, il est resté, il a pris 1, 2 et 3, et l'autre, il a pris 2, 3, 4, si vous voulez. Bon. Mais, donc, tous les deux sont d'accord que la lumière pour le futur, mais pour Rabbi Chiya, la lumière, la vraie lumière, elle ne luira que au futur. Alors que pour Rabbi Abaou, la vraie lumière, elle luit déjà dans les Maasim des Tzadikim. Elle est là. Il dit, or, cette lumière, elle est là. Elle est déjà là. Donc la discussion, c'est dans les Maasim des hommes, vous voyez très bien que Rabbi Abaou, il parle des actions des hommes. Rabbi Araba, il ne parle pas des actions des hommes. Il parle de la construction du Beth Amikdash. Et d'après ce verset, le verset tel que on l'a maintenant, on a même l'impression que le Beth Amikdash qui a été construit, c'est le monde. C'est le monde comme Beth Amikdash. Et que le monde, il a été... D'ordinaire, on dit que le Mishkan, c'est un cosmos en réduction, quoi. Donc ça voudrait dire ici, effectivement, le monde, le premier Beth Amikdash, c'est le monde. Bon, alors maintenant on l'a mis à un format acceptable, quoi, quelque part. C'est pas tout le monde, mais c'est quelque chose qui représente tout le monde. Et ensuite, Ça, c'est ça le Beth Amikdash, mais le Beth Amikdash construit, c'est donc, c'est indépendamment des hommes. Quand c'est, les trois psukim, ils parlent pas du tout des hommes. Ils parlent d'un Beth Amikdash construit, détruit et reconstruit. Alors, bien sûr, la destruction, Vaharetz Haïta Tohu Vavohu, ça indique que voilà le monde est détruit, donc le Beth Amikdash, qui est le monde, est aussi détruit. Et sur quel passou qui s'appuie? Ben sur le fait que justement Yirmiya, le Navi Yirmiya, il dit j'ai vu la terre à ce moment-là, j'ai vu la terre, elle est détruite, elle est au vavo. Et donc ce verset qui dit j'ai vu la terre, c'est il va voir aussi le Beth Amikdash détruit. Le premier Beth Amikdash. Alors ça, on peut dire que c'est bien la suite des actions des hommes, mais ça n'apparaît pas directement. On a l'impression que, voilà, on ne nous dit pas pourquoi il est détruit. La terre était dans un certain état. Et Yirmiya, il dit, je l'ai vu, elle était dans cet état. Mais on ne dit rien sur comment ça se fait qu'il a été détruit. Comment se fait-il que le monde a été détruit? Les seuls qui sont capables de détruire le monde, de détruire le Beth Amikdash, le problème, si vous voulez, c'est le Nefesh HaRim, il explique que, bien entendu, ni Nebuchadnezzar, ni Titus, n'ont pu détruire le Beth Amikdash, ni le premier, ni le deuxième Beth Amikdash. Ça n'a pas de sens. Si le Beth Amikdash est la résidence d'Hachem, on ne peut pas détruire la résidence d'Hachem. C'est un non-sens. Les seuls qui peuvent détruire le Beth Amikdash, ils l'ont effectivement détruit, c'est les Bnei Israël. Pourquoi? Parce que le Beth Amikdash, en bas, sur terre, il correspond à un Beth Amikdash dans le monde d'en haut. Et le Beth Amikdash dans le monde d'en haut, il est nourri par les mitzvot des Bnei Israël. C'est comme ça que quand je peux voir fixer les choses. Et quand lui, il est nourri, alors il envoie son flux bénéfique et il fait exister le Beth Amikdash d'en bas. Le Beth Amikdash d'en bas, il a donc été détruit, il est mis à la vue, etc. Donc, on est obligé de dire que c'est à cause des Bnei Israël. Les Bnei Israël ont fait en sorte que il y avait les mitzvot, elles ne montaient plus pour nourrir le Beth Amikdash d'en haut. Du coup, il n'y avait plus rien qui descendait. Et quand je dis qu'il n'y avait rien qui descendait, c'est que dans le Beth Amikdash, dans les deux Beth Amikdash d'ailleurs, jusqu'au bout, on a fait fonctionner parfaitement le Beth Amikdash. C'est pas qu'on a arrêté les korbanot, qu'on a plus fait ce qu'il fallait. Dans le Beth Amikdash, on faisait ce qu'il fallait. C'est en dehors du Beth Amikdash qu'on faisait pas ce qu'il fallait. C'est-à-dire, on a détruit le Beth Amikdash parce que on lui a enlevé son sens de Beth Amikdash. J'ai l'habitude de dire que on en a fait un temple. Les gens traduisent souvent le temple, Beth Amikdash par temple, mais tout le monde sait que j'aime pas beaucoup ce mot. Pour moi, c'est un temple grec ou un temple idolâtre, etc. Le Beth Amikdash, ça n'est pas un temple. Un temple, c'est un endroit où on vient et où on paye sa cotisation, en quelque sorte, au dieu auquel le temps y est. Et puis, du coup, on pense que puisque j'ai honoré le dieu en question, il va me protéger ou il va m'envoyer du bien, etc. Maintenant, si on y regarde de plus près, quand on dit que les Bnei Israël, ils ont détruit le Beth Amikdash, encore une fois, c'est pas du tout qu'ils l'ont pas fait fonctionner. Ils l'ont fait parfaitement fonctionner. Mais les mitzvot qu'ils faisaient, en le faisant fonctionner, étaient de ces mitzvot dont j'ai dit qu'elles étaient purement matérielles, si vous voulez. Il n'y avait pas de cœur. Il n'y avait rien dans ces mitzvot. La preuve, elle est sur l'extérieur. C'est que dès qu'ils sortaient du Beth Amikdash, ils se conduisaient comme des crapules, c'est ce que les Neviim reprochent en permanence au Bnei Israël. Comment est-ce que vous croyez qu'Hachem, il peut prendre un plaisir quelconque au fait que vous apportez vos corbanotes alors que vous vous conduisez comme des crapules à l'extérieur? C'est non seulement, c'est honteux, c'est dégradant pour Hachem de recevoir des corbanotes et d'accepter des corbanotes de la part de gens qui se moquent complètement des principes et des mitzvot d'Hachem dès qu'ils sont sortis du Beth Amikdash. Ils ont fait du Beth Amikdash un temple. Et ça veut dire, c'est ça la destruction du monde. D'accord? Parce que le monde, il n'avait pas été détruit, parce qu'à l'intérieur du Beth Amikdash, on ne faisait pas ce qu'il fallait. On ne le faisait pas à la dimension, on pouvait dire, on s'est acquitté de ce qu'il fallait faire dans le Beth Amikdash. Mais ça n'avait pas de sens. Parce que c'était pas un travail dans le Beth Amikdash, c'était un travail dans un temple, en fait. Parce que il n'y avait pas de correspondance du tout avec la vie dans laquelle la vie que vivaient les Bnei Israël. Ils ne vivaient pas à cette hauteur-là, les Bnei Israël. Par conséquent, c'était purement formel ce qu'ils faisaient. Et donc, ça n'avait pas de sens. Et donc, le monde, Haaretz hayta be'emet tohu vavohu. Toute la terre était tohu vavohu. Les Bnei Israël se conduisaient mal. Et c'est, puisque c'est les Bnei Israël qui ont pris en charge le fonctionnement du monde au moment d'Abraham Avinu. Du coup, ça veut dire quand ils se conduisent mal, ben le monde se conduit mal. C'est ça qu'on appelle mal se conduire, en fait. Alors, le lien, c'est probablement ça, c'est que ici on a parlé de Massif des Rechaïm, mais si je regarde, si je dis les Massif des Rechaïm, c'est Massif qui détruisent le monde. Qui font que le monde ne se construit pas, elles détruisent le monde. Et ça veut dire que ces rechaïms-là, dans la correspondance, si je peux faire une correspondance ici, ces rechaïms, quand ils allaient au Beth Amikdash, ils apportaient leurs corbanotes. Donc ils faisaient certaines mitzvot, mais les mitzvot, elles n'avaient aucun sens. C'était plus des mitzvot, c'était des actes rituels, ou je ne sais pas comment vous voulez appeler ça, peu importe. Ça n'avait aucune vie, en fait. C'était complètement déconnecté de la vie. Donc, c'est plus la vie, c'était mort. Et quand on parle et on dit que le fonctionnement du Beth Amikdash, du coup, était mort, ça veut dire que les corbanates qu'on apportait, ils étaient morts. Et c'est justement l'expression qu'on utilise quand on veut parler des sacrifices que les idolâtres amènent. On appelle ça zifremetim. Or, c'est des sacrifices morts. De morts et des sacrifices morts. D'accord. C'est des choses qui... Nous, les sacrifices, ça doit être la vie. C'est la vie qu'on... Bien sûr, on prend la vie. C'est comme... Bon, on va prendre la vie de ces animaux, etc. Et on va élever l'animal. Voilà. On veut l'utiliser pour le service d'Hachem, réellement. Pour améliorer le monde, en quelque sorte. Alors, la grande différence, si vous voulez, entre les deux, c'est que, on pourrait dire, Rabbi Abaou, il est beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus optimiste, ou beaucoup plus... Bon. Il y a des tzadikim dans le monde. Il y a des tzadikim. Il y a des gens qui font les choses. On n'est pas obligé d'attendre la fin du temps, la fin du monde, en quelque sorte. Chez Apria, il a l'air de dire que, au fond, on n'y arrivera que tout à la fin. D'une certaine manière, dans notre monde, on n'y arrive jamais. Lui, il dit, il y a des tzadikim, et Akadosh Baruch Hu, il aime bien ce que font les tzadikim. Les mitzvot qu'eux, ils font, les tzadikim, Akadosh Baruch Hu les aime bien. Donc quelque part, on peut dire que ça, du point de vue des hommes, les hommes font le travail. Mais la construction du Beth Amikdash, Le troisième Beth Amikdash, c'est Hachem l'enverra seulement. C'est lui qui va décider quand il l'enverra. On voit pas l'intervention des hommes là-dedans. On n'entend pas le travail des tzadikim ici dans la description que fait Rabbi Araba. Ça a l'air de dire oui. Il y a un terme. Le Beit Hamikdash a été détruit. Il est détruit encore, mais il ne sera reconstruit que à la fin. Mais c'est ma Kadosh Baruch Hu a déjà vu qu'il sera reconstruit. Donc ça c'est la touche d'espoir en quelque sorte. Ça sera reconstruit. Donc ça va. Il y aura un monde, peut-être un nouveau monde, d'accord, peut-être, effectivement, semble-t-il, si même, un nouveau monde, c'est-à-dire, pourquoi il faudra un nouveau monde, qu'est-ce qu'on va faire dans ce nouveau monde, en fait, je sais pas, d'accord. Est-ce que c'est un nouveau monde et que tout un cycle qui va recommencer, je sais pas, mais en attendant, Rabbi Abaou dit, il y a des tzadikim, il y a Kadosh Baruch Hu, ils préfèrent ce que font ces tzadikim, même si en fait c'est peut-être plus spectaculaire quand Hachem intervient pour châtier les Rechaïm. Voilà. Voilà ce que je voulais dire.